Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, les 72 heures accordées aux confessions religieuses par l'Assemblée nationale expirent demain. Il s'agit de dégager un consensus sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. À Beni, l'armée rassure la population d'un bon déroulement des offensives contre les groupes armés dans la région, ce avec le renforcement des unités des forces d'intervention rapide de la MONUSCO. Vous entendrez le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushai. L'invité de ce matin, Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, il parle du récent rapport de l'ONU qui accuse le Rwanda d'exploiter illégalement les mines en RDC. Pour lui, le rapport mapping rejeté par le Rwanda devrait être complété. Madame, Messieurs, bonjour. C'est demain mardi qu'expire le délai de 72 heures accordé par l'Assemblée nationale aux confessions religieuses. Cela pour dégager un consensus sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ceci est contenu dans une correspondance signée par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement et parvenue à Radio Kapi ce week-end. Entre-temps, la présidence des confessions religieuses s'est dit indignée suite à une invitation reçue pour prendre part à la réunion de la Commission paritaire. Plus de détails avec vous, Paul Matendo Mayamba.
Selon cette correspondance, ce délai expire ce mardi 17 août à minuit. Christophe Mbosso Kodiapoinga demande à la plateforme des confessions religieuses de désigner le successeur de Corneille Nangaa et est membre de la plénière. Pendant ce temps, la présidence des confessions religieuses, représentée par l'Église du Christ au Congo, ECC, et la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, s'est dit indignée d'une invitation lui parvenue dans la nuit du 13 au 14 août dernier pour prendre part à la réunion de la commission, je cite, dite paritaire dans la journée du 14 août. Cette invitation, selon la même source, portait la signature du député national André Mbata. Elle pêche tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, l'ECC et la CENCO expliquent que seul le bureau de l'Assemblée nationale a compétence de leur adresser une invitation. Sur le fond, elle précise que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI confère à la commission paritaire la compétence d'examiner les candidatures des membres de la centrale électorale. Jusque-là, les confessions religieuses n'ont désigné aucun candidat, insiste la même source.
L'ambassadeur du Rwanda en RDC était face à la presse locale et internationale samedi à Kinshasa. Pour Vincent Karega, le récent rapport de l'ONU qui accuse le Rwanda d'exploiter illégalement les mines en RDC est un faux. Le rapport mapping, dit-il, rejeté par le Rwanda, devrait être complété selon les recommandations des experts, dit-il. L'installation du tribunal pénal international pour le Congo ne fait pas peur au Rwanda, a dit l'ambassadeur de ce pays, et son pays soutient les efforts de pacification de l'Est, ainsi pour sceller le partenariat, les chefs d'État des deux pays ont signé récemment à Goma plusieurs accords, notamment dans le souci de la protection mutuelle des investisseurs des deux pays. D'autres détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Selon Vincent Karega, le récent rapport de l'ONU est faux.
C'est une campagne de dénigrement. Elle est très fausse et elle est sans base.
L'ambassadeur reconnaît quand même la fraude dans le commerce entre privés.
On ne peut pas nier qu'il n'y a pas fraude, comme dans tout le commerce. Mais le commerce illicite n'est pas de la responsabilité du Rwanda.
Quid du rapport mapping et du projet du tribunal international pour la RDC?
La réalité est que les plus accusés sont les Congolais. C'est un rapport incomplet et rejeté par tous les pays en bloc, y compris par la réaction de M. Luzolo, jamais été contredite. Si le Rwanda devrait être impliqué ou questionné, nous avons des réponses par rapport à surtout l'aspect de double génocide que ce rapport voulait coller au Rwanda. Pour nous, c'est un rejet catégorique hier, aujourd'hui et demain.
Quelle est la suite des accords signés dernièrement à Goma, au Nord Kivu, entre les deux chefs d'État?
C'est la protection mutuelle des investisseurs, donc c'est une façon de les attirer de part et d'autre.
Et à propos justement de la sécurisation de l'Est,
le Rwanda souhaite un Congo paisible et prospère, un voisin fiable, donc nous ne pouvons que soutenir et offrir tout ce que nous pouvons dans le cadre d'entendement mutuel.
Vincent Karega note que la RDC et le Rwanda sont des partenaires d'avant la colonisation.
À Beni, l'armée rassure la population d'un bon déroulement des offensives contre les groupes armés dans la région, ce avec le renforcement des unités des forces d'intervention rapide de la MONUSCO. Pour le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, la population doit boucher ses oreilles à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux et même au dire des personnes de mauvaise foi qui ne veulent pas que cette guerre finisse, a dit le lieutenant Anthony Mwalushai. Il est au micro de Marc Marofimbo.
J'informe à la population que nous sommes en pleine opération. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons clôturer les opérations. Les frappes continuent avec nos amis des FAIB, de la MONUSCO. Nous sommes vraiment engagés sur le terrain. Et vous avez même appris qu'il y a l'arrivée d'autres troupes, des troupes kenyanes, pour renforcer du côté FAIB. Ce sont nos partenaires. Et nous sommes sûrs qu'avec ces renforts, nous allons encore renforcer le feu sur le terrain. Et l'ennemi qui connaît déjà les savoir-faire des fardistiers est en train de chercher le millier pour se sauver. Mais maintenant, ces derniers temps, l'ennemi anticipe aussi avec la guerre médiatique. Parfois, il récupère des anciennes images des opérations de ses collaborateurs, envoie dans des réseaux sociaux pour montrer à la population qu'il résiste contre le fait des fardiciers. Et c'est faux. Et nous demandons à toute la population de boucher les oreilles aux ondes des réseaux sociaux.
À Boutembo, le maire de la ville appelle la population locale à vaquer normalement à ses activités aujourd'hui et demain mardi. Cet appel contenu dans un communiqué signé le vendredi 13 août est la réponse à un tract qui circule depuis ce week-end appelant à des journées sans activité lundi et mardi dans la ville de Boutembo. Tract signé par la Lucha, une position que désapprouve la société civile ainsi que la FEC Boutembo. Des précisions avec Florida Kahambu.
Dans son communiqué, le maire de Boutembo, Moabai Kiteli Roger, invite la population à dénoncer les suspects et, je cite, « à ne pas écouter les manipulateurs qui œuvrent pour des intérêts cachés ». Fin de citation. Il a ainsi échangé avec la société civile et la FEC Boutembo Lubero en vue de leur présenter la situation sécuritaire de la ville. L'autorité urbaine appelle la population à se méfier des messages d'intoxication de la part de certaines personnes mal intentionnées qui, d'après lui, jouent les jeux de l'ennemi en voulant saper les efforts des autorités pour ramener la paix. Réagissant par rapport à cet acte, Pépin Ramazani, représentant la FEC à la rencontre avec les maires, a fait savoir que les opérateurs économiques ne sont pas concernés par ces journées sans activité. D'après lui, l'état de siège a été mis en place par une loi qui doit être respectée par tous. Cet avis est partagé par la société civile de Boutembo. Pasteur Matessa Nane, son président, invite les initiateurs du tract à rencontrer plutôt l'autorité urbaine en vue de lui formuler des recommandations sur ce qui reste à améliorer pour le bien-être de la population au lieu de vouloir bloquer la ville. Boutembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Rendons-nous dans le Haut-Lomami. Le député provincial Paul Senga, élu de Malembankoulou, tire la sonnette d'alarme. Des milliers d'enfants abandonnent les études pour travailler dans les carrières minières. Ça se passe à Kasenga, dans la chefferie de Kayumba, territoire de Malembankoulou. Paul Senga demande aux autorités provinciales de tout faire pour mettre fin à cette situation qui risque de compromettre l'avenir de ces enfants. L'élu de Malembankoulou l'a dit au téléphone de Jean Gandou.
Il y a les effets très graves de perditions scolaires des milliers des enfants qui ont déserté les chemins de l'école. Ils sont allés en milliers à la carrière de Kamisolo à Kilongwe, exploités par les exploitants illicites en violation des lois du pays. Les autorités de la province y sont saisies, même les autorités territoriales ils sont en route pour prendre toutes les dispositions utiles en vue d'arrêter l'hémorragie qui risque de compromettre l'avenir des enfants. Si aujourd'hui nous sommes les députés, les ministres, des DG consorts, c'est parce que nous sommes passés au banc de l'école, nous avons terminé, nous avons nos titres académiques. Il n'est pas souhaitable que nous laissons que les gens qui font les activités illicites pour compromettre l'avenir de nos enfants, on ne peut pas les tolérer, c'est la raison pour laquelle saisie de la situation. Les ministres concernés au niveau de la province sont en train de prendre toutes les dispositions utiles quant à ça.
20 000 francs congolais, c'est la prime de brousse pour chaque enseignant dans le but de combattre la zone salariale dans la paix des enseignants des campagnes. Cette prime de brousse a été obtenue du gouvernement par Tony Mwaba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le directeur provincial de l'EPST Sud Kivu 1, qui confirme l'information, promet de préciser les modalités d'octroi de cette prime, une nouvelle qui ne satisfait pas la synergie des syndicats des enseignants du Sud Kivu, pour qui ces 20 000 francs congolais sont insignifiants. Direction la province de la Tchopo, la zone de santé de Banalia, située à 128 km au nord de Kisangani, fait actuellement face à plusieurs maladies, notamment des cas similaires à la méningite, la diarrhée sanguinolente dans des carrières d'or ainsi que la rougeole. Selon le docteur Patrick Mbenga, médecin chef de zone de santé de Banalia, de retour vendredi dernier à Banalia, il dit avoir découvert des cas de diarrhée sanguinolente dans l'aire de santé de Tétino, alors qu'il s'était rendu à Panga en mission d'investigation des cas de méningite. L'insalubrité et le manque d'eau propre pour la consommation serait la cause de ces maladies. Docteur Mbenga, joint par Jacques Moukonkole.
Là-bas, il y a plusieurs tracts sur la rivière Arouimi. Ce sont des dizaines, des centaines même. Maintenant, ces tracts, les gens travaillent sous l'eau. Alors, des villages occasionnels se sont créés à côté, à proximité. Lesquels villages sont construits avec des huttes de 1 mètre sur 2 où la personne met, creuse dans sa propre chambre la toilette à ciel ouvert et son lit, ses casseroles. Maintenant, quand il pleut, la pente qui va vers la rivière répond tous ses excréments vers la rivière.
Vous pouvez nous donner des statistiques, combien de cas de décès s'il y en a eu?
Je n'ai pas notifié de décès. Comme je venais pour l'investigation de méningite, j'ai quand même eu 84 cas à Kitano. Bon, je n'avais pas les bocaux de prélèvement. J'ai pris un seul bocal. L'unique échantillon s'est avéré positif. Pas de point d'eau. On ne peut pas manger, on ne peut pas faire la vaisselle parce que l'eau de la rivière Arouimi est suffisamment polluée.
Le médecin chef de zone de santé de Banalia dit attendre les résultats de laboratoire de l'INRB à Kinshasa avant la prise en charge des malades. Et concernant la rougeole, une campagne de vaccination des enfants est en cours avec l'appui de MSF Suisse et le gouvernement provincial, signale la même source. Dans l'actualité aussi, la réouverture des terrasses et bars ce week-end à Kinshasa, la Confédération nationale des tenanciers des nightclubs, bars, terrasses et restaurants dit sa gratitude aux autorités du pays, s'est confiant exclusivement à Radio Kapi. Juvenal Jafari Kilongo, président de cette structure, plaide pour que les mêmes autorités les assistent afin de relever les défis économiques entraînés par cette mesure. Assistance entre autres dans le paiement des factures de la régie des eaux et de la SNEL ainsi que les taxes, a dit Juvenal Jafari Kilongo au micro de Paul Matendo Mayamba.
Aujourd'hui, plusieurs des tenanciers nous appellent que les bailleurs sont revenus pour les demander de payer les trois quarts de la période que nous étions confinés depuis 2020 et que, en défaut de quoi, ils seront déguerpis de leur maison. Ce que je demande au gouvernement, c'est de pouvoir indemniser les tenanciers qui sont à règle avec l'État congolais, qui payent régulièrement leurs taxes, impôts et redevances liées à l'État, en réglementant les problèmes qui existent entre bailleurs et locataires tenanciers et toutes ces taxes-là qui surviennent au-dessus pendant cette période, les trois quarts de période de fermeture de nos activités, que l'État puisse faire une compensation, que l'État puisse demander à la DGRK de s'asseoir et d'effacer totalement cette période parce qu'on n'a pas travaillé, et aussi à la régie des eaux et à la SNEL parce qu'on n'a pas travaillé.
Actualité Afrique Monde.
L'OMS s'est dit extrêmement préoccupée. Un cas de virus Ebola a été signalé ce week-end en Côte d'Ivoire. Cela faisait 30 ans que le virus n'était pas apparu dans le pays. Le cas détecté est une jeune fille en provenance de la Guinée. Selon le ministre ivoirien de la Santé, la jeune fille a quitté la ville de Labé, au centre-ouest de la Guinée, et arrivée à Abidjan par route le 12 août dernier. Son cas a été diagnostiqué dès le lendemain et la patiente a été placée à l'isolement. Si en Côte d'Ivoire, le virus n'avait pas été détecté depuis 1994, la Guinée voisine a récemment fait face à une résurgence de l'épidémie. Au moins 724 morts, plus de 2800 blessés et plusieurs disparus. Bilan provisoire jusqu'hier du séisme qui a frappé le Grand Sud d'Haïti samedi matin. Sur place déjà, il y a les brigades médicales cubaines, un renfort plus que nécessaire face à l'ampleur du désastre. L'état d'urgence a été déclaré pour un mois en Haïti. Les États-Unis ont offert leur assistance. Le président Biden a promis une réponse américaine immédiate à travers l'Agence américaine d'aide internationale USAID.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons ce matin l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Vincent Kariga traite de faux le récent rapport de l'ONU accusant le Rwanda dans l'exploitation des minerais de sang en RDC, de même que le projet dit de balkanisation de la RDC. Il encourage par ailleurs la République démocratique du Congo à organiser son secteur judiciaire et à prendre toute initiative quelconque à même de ramener la paix, parce que selon lui, le Rwanda souhaite un voisin paisible, prospère et fiable. L'ambassadeur du Rwanda en RDC l'a dit dans cette interview accordée exclusivement à Radio Kapi. Vincent Kariga est avec Jean-Désiré Kanyama.
Vincent Kariga, bonjour.
Bonjour.
Le tout dernier rapport de l'ONU accuse le Rwanda dans l'exploitation illégale des minerais de la RDC. Quelle est votre réaction?
Il est faux, c'est une campagne de dénigrement, surtout menée par une entreprise étrangère dans le domaine minier au Rwanda, qui n'a pas rempli ses obligations légales et économiques, pour lesquelles le Rwanda a été obligé d'arrêter le contrat ou les travaux de mine.
Vous voulez dire que cette campagne est donc fausse?
Elle est très fausse et les base et le gouvernement n'est pas impliqué dans quelque commerce que ce soit. Toutes les entités gouvernementales qui avaient le caractère commercial ont déjà, depuis plusieurs années, été privatisées.
Dans ce sens-là, le Rwanda possède déjà une raffinerie de l'or.
Il est vrai que le Rwanda raffine l'or. Il raffine le coltan et l'étain. Nous raffinons ce que nous achetons. L'or n'est pas unique à la RDC. Pour preuve, la raffinerie rwandaise obtient de l'or jusque depuis le Zimbabwe jusqu'au Ghana. Et on nie pas non plus que, de façon légale, il y a aussi des ventes, des Congolais qui ont des comptoirs, des Congolais qui ont des minerais légalement avec permis qui traversent la frontière via DGDA, DGM ou ANR sans difficulté.
Monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous du rapport Mapping et du projet du tribunal pénal international pour la RDC?
Beaucoup de choses se racontent sur ce rapport. La cible, selon les médias et tout, et le Rwanda, la réalité est que les plus accusés sont les Congolais depuis 93, avant même l'arrivée du Rwanda. C'est un rapport incomplet, jamais adopté et rejeté par tous les pays en bloc, y compris par la réaction de M. Luzolo. Laquelle réaction n'a jamais été contredite? Nous avons des réponses par rapport à surtout l'aspect de double génocide que ce rapport voulait coller au Rwanda. Pour nous, c'est un rejet catégorique hier, aujourd'hui et demain.
Quid du fameux projet de balkanisation de la RDC concocté, semble-t-il, par votre pays?
La balkanisation, elle est fausse, mais elle est tellement diffusée que beaucoup de gens y croient. Même si la MONUSCO a bien établi qu'il y a 122 groupes armés, dont peut-être deux ou trois sont étrangers, aussi contre leur propre pays. Tout le reste, c'est congolo-congolais, mais à l'ouest, généralement, on s'est dit, bon, ils sont tous payés, instrumentalisés par ces pays voisins extrêmement pauvres en termes de richesses minières et qui n'ont que de velléité pour prendre les richesses ou la partie congolaise qui est extrêmement riche. À mon niveau, je ne peux que communiquer sur la politique, sur la vérité du Rwanda.
Alors, quelle est la suite réservée aux accords signés récemment à Goma en Nord-Kivu entre le président rwandais et le président de la RDC?
C'est la protection mutuelle des investisseurs, une façon de les attirer de part et d'autre dans la légalité, la coopération selon les cadres légaux, les codes d'investissement de part et d'autre. Il y a aussi la promotion de la non-double taxation pour encourager les investisseurs à ne pas être frustrés par la lourdeur fiscale. Donc c'est dans l'esprit coopération sud-sud, coopération inter-africaine que ces accords ont été signés.
Alors quelle est la perception du Rwanda pour le moment dans les efforts de sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo?
Le Rwanda souhaite un Congo paisible et prospère, un voisin fiable. Donc nous ne pouvons que soutenir et offrir tout ce que nous pouvons dans le cadre d'entendements mutuels.
Monsieur l'ambassadeur, tout donc est en rose au Rwanda. Quid
écoute par exemple l'évolution de la situation des droits de l'homme.
Certains disent que le Rwanda c'est une dictature parce qu'ils ont réélu pendant plus de 3 mandats un même président. Quant à la sécurité des biens et de la population, nous sommes numéro 1. Quant au respect de l'environnement, l'hygiène, la propriété, nous sommes aussi numéro 1 en Afrique. Le seul parlement sur le continent à avoir 63% des femmes. Donc on a beau dire dictature, manque de ceci ou cela, mais les avancées et les indicateurs prouvent le contraire. Mais nous ne dirons pas que nous sommes un État parfait. Ici, vous célébrez beaucoup la démocratie, mais il ne manque pas de fois où on dit certains médias ont été muselés ou arrêtés. Ça arrive en France, ça arrive partout, mais en termes généraux, vous qui êtes de l'Est, vous circulez au Rwanda, je ne pense pas qu'on vous tracasse. Combien de fois on vous a demandé votre carte d'identité quand vous avez traversé, ou arrêté ou demandé de payer quelque chose à Taïlo Kouamouké?
Vincent Karega, je vous dis merci.
Merci beaucoup.
L'ambassadeur du Rwanda en RDC était avec Jean-Désiré Kanyama. C'est la fin de ce journal supervisé par Ben Kabamba, coordination de Richard Junior Kamunga. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre attention.